France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 29 mars. C'est le journal de la rédaction avec vous, Mélanie Kuzelevitch. Bonne journée.
Bonne journée Nicolas et bonjour à tous. En Birmanie, les secours tentent de retrouver les survivants après le séisme qui a fait plus de 1000 morts. Mais dans le pays ravagé par la guerre civile, le travail des humanitaires est compliqué. Donald Trump veut-il réécrire l'histoire de son pays ? Il s'attaque en tout cas à l'idéologie des musées, vous l'entendrez. Et puis la responsabilité de l'État mise en cause dans plusieurs féminicides, dont celui de Shahinez Daoud et de Sandra Pla. En Birmanie, les secours s'activent pour chercher les survivants sous les décombres. Le bilan du séisme de magnitude 7,7 s'alourdit. Il a fait plus de 1000 morts. La junte militaire au pouvoir appelle à l'aide tous les pays et toutes les organisations. Les ONG se préparent à envoyer des renforts, mais elles savent aussi que le travail des humanitaires est compliqué par la situation du pays. Valérie Crova.
Depuis qu'elle a repris le pouvoir en 2021, la junte militaire mène une guerre acharnée aux milices rebelles dont on dit qu'elle contrôle désormais une bonne partie du pays. Les groupes armés et autres forces d'opposition birmanes ont conquis plus de 40% du territoire. L'armée n'en contrôlerait que 20%, le reste du pays demeurant disputé. Cette guerre civile est évidemment un handicap pour les humanitaires. Comme nous l'explique Elena Ronchal, directrice des opérations internationales de médecins du monde.
L'accès pour les humanitaires et pour les soignants, ça va être très dangereux, voire impossible.
Ce conflit a mis à genoux l'économie birmane, tout comme le système de santé. Le pays est en ruine et le fort séisme d'hier va encore un peu plus le fragiliser, craint Elena Ronchal.
Nos équipes sont déplacées sur place et qui nous disent que les hôpitaux ils sont déjà complètement surpassés. Alors à voir, mais les bilans humains, ça va être beaucoup plus lourd que les chiffres annoncés maintenant.
Pour porter secours à la population, Médecins du Monde va redéployer ses équipes déjà sur place. Des renforts seront envoyés aujourd'hui à Mandalay, la deuxième ville de Birmanie, la plus proche de l'épicentre du séisme.
La Birmanie, on y revient en longueur à 12h30 avec Jacques Leder, chercheur à l'École française d'Extrême-Orient et spécialiste de la Birmanie. Il sera notre invité dans le journal. En Turquie, nouvelle manifestation organisée par l'opposition sur la rive asiatique du Bosphore aujourd'hui. L'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et principal rival du président Erdogan, a déclenché une vague de protestations inédite dans le pays, qui ne désenfle pas malgré la multiplication des arrestations. Aux États-Unis, Donald Trump s'en prend désormais au musée. Il a signé jeudi soir un décret pour suspendre les financements publics de toute exposition évoquant des questions raciales au sein de la Smithsonian Institution, qui regroupe plusieurs musées à Washington. Difficile de ne pas y voir une tentative d'effacer de l'histoire officielle les références à l'esclavage, à la ségrégation ou au massacre des nations autochtones. Un blanchiment de l'histoire américaine, Camille Manier, qui inquiète les acteurs culturels dans tout le pays.
Fahamu Pekou nous reçoit dans son atelier. Il est artiste, universitaire, fondateur à Atlanta du musée d'art de la diaspora africaine. L'histoire de la communauté noire en Amérique est au cœur de son travail. Alors il se sent directement visé par ce qu'il appelle une guerre culturelle lancée par la Maison Blanche.
C'est une manière vraiment tragique, malheureuse, ignorante de s'en prendre à la diversité de tout ce qui a fait ce pays tel qu'il est. Les États-Unis n'ont jamais été un pays avec une seule identité.
Ces 20 dernières années, les historiens et chercheurs peu à peu avaient commencé à intégrer ces narratifs différents, à questionner les mythes fondateurs centrés sur la seule histoire des colonisateurs européens. C'est tout ce travail que l'administration Trump veut effacer, déplore Fahamu Pekou.
Il est convaincu que si on laisse s'exprimer les voix des différentes populations, des différentes expériences qui ont façonné ce pays, cela va priver l'homme blanc de l'autorité qu'il a longtemps exercé.
Alors bien sûr, Donald Trump portait déjà ses idées il y a 8 ans pour son premier mandat. A-t-il face à lui moins de contre-pouvoirs cette fois, ou bien est-il plus déterminé à les imposer ? Fahamu Pekou refuse de s'avouer vaincu.
Je refuse l'idée selon laquelle Trump aurait plus de pouvoir encore qu'il y a 8 ans. Je pense que c'est plutôt que les gens sont plus fatigués, épuisés, et que c'est organisé sciemment par toutes ces distractions. Même ce décret qu'il a signé, c'est fait pour nous faire paniquer. Moi, je choisis de ne pas céder à la panique.
Mais l'artiste ne dépend pas d'argent public pour son travail ni pour son musée et d'autres n'ont pas cette liberté. Déjà, de nombreuses institutions, universités, musées ont dû céder à cette reprise en main idéologique de la Maison-Blanche par peur de perdre leur budget fédéraux.
Camille Manière, à Atlanta, en France, le procès du mari de Chahinez Daoud pose la question de la responsabilité de l'État. Mounir Bouta est condamné à la perpétuité, reconnu coupable de l'assassinat de son épouse brûlée vive à Mérignac il y a 4 ans. L'enquête a pointé plusieurs défaillances et la famille de la victime a engagé une procédure pour faute lourde contre l'État. Affaire qui rappelle l'assassinat de Sandra Plat, tuée par son ex-conjoint en Gironde également. Elle aussi avait dit se sentir en danger. Ses proches ont assigné l'État il y a plus d'un an, mais depuis, rien ne bouge, Ariane Grissel.
Sandra Plat avait déposé plusieurs plaintes pour violence et harcèlement, écrit jusqu'au procureur et au président de la République.
Rien n'a été fait correctement.
Elsa Crosetti est l'avocate de la famille de la jeune femme.
La dernière étape, ça a été quand M. Fallon a été placé en garde à vue. Il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire. Elle n'en a pas été informée. 2 jours après, elle a été assassinée.
D'où cette procédure engagée par la famille, mais l'agent judiciaire qui représente l'État dans ce dossier vient de demander que l'on attende le jugement en appel de Michaël Fallou avant de se prononcer. Pas de date prévue encore pour ce nouveau procès. Et cet argument ne tient pas pour l'avocate Elsa Crosatier qui rappelle que le code pénal prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le jugement définitif et accuse l'État de se soustraire à ses responsabilités.
On a appris lors de la procédure, le procès en janvier 2025, par l'avocate générale, que depuis le décès de Chahinez et de Sandra, il avait été mis en place de nouvelles mesures, c'est-à-dire que les victimes ne sont pas entendues de la même manière, les policiers sont mieux formés. On aimerait voir un petit peu quelles ont été les mesures qui ont été engagées pour que ça n'arrive plus.
Un combat dont l'avocate précise qu'il n'a rien de personnel pour ses clients qui souhaitent en faire au contraire une cause générale et se disent aujourd'hui écœurés.
Contacter l'avocat de l'agence judiciaire de l'État confirme vouloir attendre le jugement en appel sans souhaiter faire plus de commentaires. Un mot de météo avec de la pluie à l'est et du soleil ailleurs. Pour les températures, comptez 11 degrés à Lyon et 17 degrés à Nice.